Bonjour Béatrice, alors aujourd'hui nous allons parler du bleu.
Oui, bonjour Cathy, bonjour à chacun de vous. Aujourd'hui c'est le bleu et c'est un vrai bonheur que de parler du bleu parce que ce bleu nous fait du bien, il nous fait rêver. Il suffit déjà de regarder autour de soi, ce bleu c'est le ciel, c'est l'air, c'est la mer proche, la mer côtière, c'est l'eau, c'est le cristal et le diamant. Ce qui fait qu'on associe ce bleu à la plus profonde des couleurs. Ce qui est bleu semble très loin, inaccessible. Il donne la sensation d'espace, suggère une idée d'éternité tranquille. Le bleu clair est le chemin de l'infini parce que le regard s'y perd, les mouvements et les sons, comme les formes, disparaissent comme un oiseau dans le ciel. C'est aussi, de ce coup, la plus immatérielle des couleurs. Il est fait de transparence, il dématérialise tout objet sur lequel il se trouve. Ce bleu, c'est la plus pure des couleurs, après le blanc bien sûr, parce qu'il est fait de vide accumulé, d'où le caractère stérile des tons bleu clair que l'on emploie dans les milieux hospitaliers. Le bleu clair, donc, il calme, voire même il endort. C'est pour ça que l'on l'utilise dans les chambres des bébés, dans les hôpitaux, les espaces cocooning. Les emballages des calmants aussi et les somnifères sont souvent en bleu. Ce bleu clair aussi symbolise l'esprit. Il incite à la réflexion puisqu'il est profond, immatériel, à la contemplation, à la rêverie. Il transforme le réel en imaginaire et comme Alice, il invite à passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire au pays des merveilles. Donc on ne s'étonnera pas que le bleu symbolise l'exotisme, ce bleu turquoise de la mer qui permet l'évasion. C'est le ciel bleu des tropiques qui évoque les vacances. Des clichés nous viennent comme une plage blanche bordée de ciel bleu, les murs blancs du Maroc sur ciel bleu. Et c'est pourquoi les agences de voyage l'utilisent beaucoup et les cartes postales. Me vient une jolie métaphore de la mythologie grecque qui dit que la couleur bleue de la mer vient de l'ondulation des longs cheveux bleus des petites filles de l'océan, les Néréides.
Alors c'est peut-être pour cela que Brasillier, un grand peintre contemporain, a peint le cœur de la chapelle Saint-Blaise, en Corrèze, en dominante de bleu, couleur paisible qui incite à l'intériorisation.
Oui, oui, bien sûr, parce que ce bleu, c'est, je disais, la couleur de l'esprit, et c'est donc aussi la couleur de la foi, puisqu'on le sait bien, le bleu est associé à la Vierge. C'est donc la couleur de la bonté, de l'amour fidèle, du romantisme, on dit être fleur bleue. Le bleu a toutes les qualités maternelles. Il est doux, il est enveloppant comme l'eau. Ce bleu donc symbolise le renoncement aux valeurs matérielles et l'envoi de l'âme libérée vers Dieu. On mettait une des deux couleurs mariales, le blanc ou le bleu, sur les enfants impubères qui ne sont pas encore de ce monde matériel et donc plus proches du divin.
D'ailleurs, les mamans qui avaient eu un problème au moment de l'accouchement ou dont l'enfant avait été gravement malade étant petit, faisaient le vœu d'habiller en bleu et blanc leur enfant, quelquefois jusqu'à la majorité. Et ainsi, ces enfants devenaient des ex-voto vivants.
Oui, 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 c'est vrai. Donc c'est effectivement la couleur de la paix, de l'équilibre, de l'harmonie. Et on ne s'étonnera pas que les grandes instances internationales comme l'ONU, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, les choisissent comme couleur de leur emblème. Mais là, nous parlons du bleu clair. Il faut le distinguer cette fois du bleu foncé parce que ce sont les mêmes caractéristiques, mais plus fortes encore. Ce bleu foncé, c'est celui de l'océan, mais profond cette fois, de la nuit, de l'ombre, du cosmos. En regardant ces éléments naturels dont on parle, l'œil plonge dans un gouffre sans fin. Bleu foncé, dans le ciel lointain, indigo, quand la lumière se retire, puis dans la nacelle céleste, presque noire, et ses constellations. Ce bleu foncé, il mène au sommeil en capturant l'esprit de la conscience à l'inconscience, et le mental ne commande plus du tout là cette fois. Cet indigo est souvent utilisé comme un guide du voyage intérieur vers une certaine sagesse. Avec toutes ses qualités, il va être une façon de relier le limité à l'infini. Mais comme d'habitude, s'il n'avait que des qualités, ce serait formidable, mais il est ambivalent comme toutes les couleurs. Parce que la profondeur du bleu a une gravité solennelle qui peut impressionner. C'est le bleu des rois, du manteau du sacre, on dit avoir le sang bleu, c'est-à-dire des origines nobles. Il peut aussi évoquer la mort. Pour les Aztèques, par exemple, le bleu dur du ciel sans voile est menaçant. Il est signe de sécheresse et de famine. Il y a aussi le froid du bleu clair qui n'attire pas forcément parce que c'est l'univers hostile des glaces polaires, des icebergs. Ce sont les bonbons à la menthe, oui, mais c'est aussi l'intérieur des congélateurs qui est moins heureux. Alors l'association du bleu foncé à la nuit et à l'ombre, à l'infini de l'espace, appelle parfois à la mélancolie, à la nostalgie. On parle du blues, avoir un coup de bleu. Et puis cette importance de la signification métaphysique du bleu, sa faculté à nous transporter vers le surnaturel, ben ça peut faire peur. On dit du reste avoir une peur bleue, et je n'y vois que du bleu pour dire je ne comprends rien.
Alors au fait, qu'est-ce exactement que cette couleur indigo ?
L'indigo n'est qu'une nuance fondue dans le spectre des couleurs qui sont visibles et qui apparaissent difficilement, car c'est une couleur sombre. En fait, Newton l'a ajoutée en tant que septième couleur de l'arc-en-ciel, alors que la lumière visible avec un prisme ne révèle que les six couleurs dominantes. Il l'a fait pour faire coïncider les sept couleurs avec les sept planètes connues, avec les sept jours de la semaine, les sept notes de musique et d'autres septénaires qui étaient alors tenus pour des références culturelles. Mais en fait, comme ce n'est pas une couleur franche, sa couleur effectivement est mal définie. Elle est située entre le bleu et le violet sur l'arc-en-ciel, et donc l'indigo est une nuance de bleu violacé qui est assez difficile à percevoir.
Alors, l'histoire maintenant va peut-être nous éclairer sur l'origine de cette couleur.
Oui, l'histoire en concernant le bleu est assez amusante, parce que on commence par ignorer le bleu, voire même à le craindre, et puis on finit chez nous par le préférer entre toutes les couleurs. Dans un premier temps, cette couleur est une couleur de deuxième plan. La Grèce ignore le bleu. Aucun mot ne désigne le bleu, même s'il sert parfois de couleur de fond. Mais on ne parle de bleu ni dans les poèmes homériques, ni dans l'Ancien Testament. Et jusqu'à Newton, en fait, on ne croyait pas qu'il y avait des couleurs dans la lumière. Alors, plutôt que de parler de couleurs, l'époque classique va parler de lumière, du sentiment de la couleur. Et pour la mer, on évoque la pâleur, glaucos, ou son obscurité, kianéos. L'Empire romain, après, a peur du bleu parce qu'il est associé aux ennemis, les barbares. Les Celtes et les Germains ont les yeux bleus. Les guerriers gaulois, les Bretons et les envahisseurs du Nord, les Germains, se peignent le visage, les cheveux et le corps en bleu avec la guêtre pour se donner une allure fantomatique qui va terrifier les légions romaines. De la même façon, les Pictes, qui a la même racine que pictural, c'est une tribu d'Écosse qui est rebelle aux Romains, va utiliser le même procédé. Donc ce bleu chez les Romains est vraiment signe de disgrâce, de deuil. Il est efféminé pour les hommes et il est signe de mauvaise vie pour les femmes. L'autre raison pour laquelle le bleu est une couleur de second plan pendant cette première période, c'est que les couleurs dominantes sont le rouge et ces deux couleurs contraires, le blanc et le noir, dans l'antiquité méditerranéenne, c'est-à-dire orientale et gréco-romaine. Ce blanc, ça représente l'incolore et la pureté. Et le noir, lui, est le sombre et le sale. Alors le rouge, c'est la couleur. Les codes sociaux s'organisent autour de ces trois pôles, et ce jusqu'au Moyen-Âge. Alors le bleu, évidemment, il n'a pas sa place dans la symbolique. On se souvient que les sociétés antiques et médiévales définissent la nature à cette époque par quatre éléments qui sont chacun de couleurs différentes. L'eau était verte, l'air bleu, c'est-à-dire la lumière, la terre noire et le feu rouge. Le bleu, lui, est considéré comme une couleur chaude. Il ne va se refroidir qu'au XVIe siècle, quand on va l'associer à l'eau, et au XIXe siècle, le bleu prend son statut de couleur froide.
RCF, un programme aux couleurs de la vie.
Vivre en couleur se poursuit à présent avec Cathy Béchameil et l'artiste peintre Béatrice Vial-Collet, ce mois-ci, le bleu.
Alors, muni de ces éléments historiques, vous allez peut-être aussi nous éclairer sur la genèse des couleurs avec les procédés de fabrication qui ont leur mot à dire.
Oui, parce que comme d'habitude, la perception de ces couleurs est très intimement liée à la possibilité plus ou moins facile que l'homme a de fabriquer ses couleurs. En l'occurrence, l'homme a eu beaucoup de difficultés à fabriquer le bleu. Il est plus rare que les ocres, les jaunes, les rouges, les bruns et les noirs. La nature ne fournit pas beaucoup d'éléments pas beaucoup de substances qui permettent d'obtenir du bleu. Et jusqu'à l'invention des couleurs de synthèse, l'homme ne va pas disposer de beaucoup de pigments. Alors, quels sont-ils ? C'est l'azurite, qu'on nomme l'azuro-citramarino, c'est-à-dire c'est le bleu venu de ce côté de la mer. C'est le lapis-lazuli du pauvre. C'est le plus utilisé dans l'Antiquité classique et le monde médiéval, mais il n'est pas stable, il est moins beau, c'est un minerai fait d'un carbonate basique de cuivre. Alors le vrai pigment, le grand pigment, c'est le lapis-lazuli ultramarino, venu d'au-delà des mers, c'est-à-dire d'Orient, par opposition à l'azurite. C'est une pierre très dure, semi-précieuse. Pendant longtemps, ça a été le roi des pigments bleus, mais elle est très chère parce qu'elle a un faible pouvoir colorant, elle est difficile à trouver, difficile à extraire et difficile à transformer. En fait, il faudra attendre le XIIe siècle pour savoir le débarrasser de ses impuretés. On en fait une pâte plus malléable, mais son pouvoir couvrant reste faible. On le réserve aux enluminures et à la robe de la Vierge. Il est tellement précieux que les administrations monastiques requièrent l'engagement du peintre sur les quantités qu'il va utiliser. Vous voyez, on prenait alors ces vénules dorées, qui sont de la pyrite de fer, pour de l'or, et ça en augmentait son prestige. Il faut aussi parler du bleu égyptien qui est créé par l'Égypte en 2500 ans avant Jésus-Christ parce que c'est le plus ancien pigment synthétique. On l'appelait bleu céruléum, c'est le bleu romain, l'ancêtre du bleu pompéien, et on l'obtient en pulvérisant un verre cuit avec de la limaille de cuivre. Ce bleu, on le sait, chez les Égyptiens, c'est la couleur de l'immortalité. Il est très bénéfique, il éloigne les forces du mal, il protège le défunt dans l'au-delà, d'où le petit mobilier funéraire qui accompagne le défunt, c'est-à-dire ses statuettes et les perles bleues en silicate de cuivre, les fameux chaptis. Mais pourtant, les Égyptiens qualifient une mauvaise journée de bleu, voyez toujours l'ambivalence.
Les procédés de teinture vont déteindre, c'est pas un jeu de mots, sur la perception que l'on a des couleurs. Forcément, il va y avoir un lien entre les deux.
Oui, justement, pour le bleu, c'est très très important parce que cette teinture bleue est la plupart du temps perçue très négativement. La production du pastel dégoûte beaucoup de cultures. Hein. Si on les utilise à Rome, en Égypte, en Asie, on est quand même assez dégoûté parce qu'elle nécessite une longue macération dans des cuves vraiment répugnantes. De toute façon, les teintures bleues donnent des couleurs ternes, sales, si bien qu'on ne les destine qu'aux vêtements de travail. Par exemple, en Inde, on pratique la teinture au pastel et à l'indigo, mais pour eux, tout ce qui est teint est avili parce que c'est éloigné de son état initial. Alors le métier de teinturier est impur, il est pratiqué dans des quartiers isolés par la caste la plus basse, les intouchables. Et le bleu est associé au deuil. Il attire le malheur. Alors, bien sûr, la femme n'osera pas porter un sari bleu. Mais quand même, la teinture à l'indigo, elle, a été perçue plus positivement. L'indigo, lui, est importé par les peuples du Proche-Orient, d'Asie et d'Afrique, d'où son nom latin indigum, c'est-à-dire qui vient des Indes, ce qui en fait un produit cher. Bon, par contre, celui qui viendra du Nouveau Monde, c'est-à-dire des Antilles et du Mexique, où sa culture est souvent esclavagiste, revient moins cher. Par exemple, en Afrique occidentale, eh bien, on a la passion de l'indigo. Et les Touaregs du désert saharien adorent son odeur. Vous connaissez leur appellation les hommes bleus. Eh bien, ça vient de ce que l'indigo imprègne leurs étoffes, les étoffes qu'ils portent, pénètre leur peau et lui donne une teinte bleutée. Un mythe, du reste, dit joliment que les tissus recevaient en offrande la sueur de leurs porteurs. Mais on en arrive à une valorisation du bleu, heureusement, et ce, à partir du XIIe siècle. Et comment s'expliquer en quelques décennies un renversement complet des valeurs ? Ce, pour plusieurs raisons. Il y a d'abord les évolutions du monde chrétien, parce que tout d'abord la lumière, c'est-à-dire l'air, devient bleu. Le bleu devient divin. Pour la première fois en Occident, on peint les ciels en bleu, lumière divine, céleste, plutôt que blanc, rouge, noir ou doré, comme on le faisait dans la peinture byzantine, et ce jusqu'au primitif italien, avec Giotto, Fra Angelico, Lorenzetti. Désormais, il y aura dans l'art occidental presque synonymie entre lumière, or et bleu. On se souvient des prélats chromophiles qui assimilent couleur et lumière. Suger fait rebâtir au XIIe siècle l'abbatiale Saint-Denis, qui est un véritable temple de la couleur, comme le sera la Sainte-Chapelle de Paris, construite au milieu du XIIIe. Et plus tard, les églises gothiques aussi feront rentrer la lumière de Dieu, mais le bleu sera associé au rouge, donc plus violacé.
Et ça me fait penser d'ailleurs qu'on parle du bleu de Chartres, dans la cathédrale de Chartres. Donc c'est vraiment effectivement une référence dans le monde chrétien.
Tout à fait. Et effectivement, alors la deuxième évolution du monde chrétien, c'est justement le culte croissant de la Vierge qui fait du bleu une véritable couleur mariale. Elle abandonne ses vêtements rouges ou sombres, couleur d'affliction, pour une robe bleue. Le bleu qui tient alors un rôle d'attribut marial du deuil. Et Jésus est aussi représenté vêtu d'une robe bleue azur. Alors, une autre raison très importante qui va faire évoluer ce bleu, la fonction classificatoire des couleurs qui apparaît. C'est-à-dire que les systèmes chromatiques de trois couleurs de base, qui étaient jusqu'alors demi, c'est-à-dire le rouge, le blanc et le noir dont on parlait, va passer à six couleurs. On leur ajoute le bleu, le jaune et le vert, parce qu'on veut classifier les individus. Les noms de famille apparaissent, les armoiries, les insignes de fonction. On veut associer, opposer, hiérarchiser. Et six couleurs permettent mieux de donner des combinatoires, plus riches pour réorganiser les emblèmes, les codes de représentation et les systèmes symboliques. À ce nouvel ordre social correspond un nouvel ordre des couleurs avec le couple de contraires rouge-bleu. C'est comme ça qu'à la fin du Moyen-Âge, le bleu va dominer en maître. On donne au roi d'origine divine la couleur divine, le bleu, qui devient la couleur royale et princière. Et à ce moment-là, le bleu est héraldique. Depuis la fin du XIIe siècle, le blason de la Maison de France, qui certifie l'origine supraterrestre des rois chrétiens, est bleu roi semé de trois fleurs de lys d'or. Et au XIIIe siècle, beaucoup de familles introduisent par imitation l'azur dans leurs armoiries. En langage héraldique, chaque couleur, on le sait, a un nom spécial. Et on dit azur pour dire bleu, comme jaune se dit or.
Et d'ailleurs, il a fallu traduire cette écriture des couleurs lorsqu'on a gravé les blasons, soit dans la pierre, soit dans le métal. Et c'est ainsi que l'azur en héraldique est représenté par des rayures horizontales. Ça fait partie du langage des blasons.
Oui, oui, oui. Alors, il faut ajouter comme troisième raison pour la progression de ce bleu, la progression des techniques tinctoriales. Parce que les pigments bleus vont devenir de plus en plus fins et purs et, du coup, donnent des tons clairs et lumineux. Enfin, le bleu des travailleurs et des paysans devient, à la fin du Moyen-Âge, celle des rois, des princes, des nobles et des patriciens, puisque le bleu devient beau. On intensifie pour ce faire la culture de la guêde, qui devient l'or bleu des pays de Cocagne, en Picardie, Normandie, Lombardie, Languedoc. Alors la pulpe des feuilles de cette plante crucifère est broyée en pâte, elle est fermentée à l'air dans les cuves, comme on le disait, pour que se révèle l'indicant qui est sa substance tinctoriale. Elle est foulée dans ces cuves, d'où les fameux pieds bleus. Et elle est moulée à la main, en boule ou en coque, d'où le nom de Cocagne, les pays de Cocagne. Et puis elle est séchée pour devenir une matière granuleuse, le fameux pastel, qui sera conditionné en gros blocs pour pouvoir être exporté. Les marchands de Garance ne se laissent pas faire pour autant. Ils vont défendre leur rouge en cherchant à discréditer le bleu. En Allemagne, ils vont demander au maître verrier de représenter en bleu le diable ou l'enfer sur les vitraux. Mais malgré tout, la guêde va triompher au milieu du XIIIe siècle et le bleu connaît son âge d'or au XVIe et il va faire l'objet d'un commerce intense. Et il faut aussi ajouter, comme objet de promotion de ce bleu, la réforme protestante au XVIe siècle, parce que le bleu devient une couleur morale. Ça n'a pas toujours été aussi évident que ça. Dans la même tendance à donner des valeurs aux couleurs, Calvin n'a pas été de reste. La quête de la simplicité et de la sévérité des protestants se traduit là chez des peintres calvinistes par une ascèse de la couleur. Vous vous rappelez chez Rembrandt, il y a peu de tons et ils sont foncés avec de gros effets de lumière. Les protestants, eux, ne s'habillent pas avec des couleurs vives, qui sont jugés déshonnêtes par Calvin. Ce sont les verts, les jaunes, les rouges. Mais ils s'habillent avec des couleurs foncées que Calvin recommande, c'est-à-dire le noir, le gris, le brun. Ou bien du blanc, qui est une couleur digne et pure. Alors le bleu là-dedans, eh bien le bleu est admis au début parce qu'il est peu saturé. Et à la fin du XVIe siècle, il va être rangé dans les couleurs honnêtes, dignes d'un bon chrétien. Voilà. Enfin, on arrive à notre époque, au XVIIIe siècle, le bleu devient la couleur préférée en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Et savez-vous que le bleu est la couleur préférée, eh bien pour 50% d'entre nous, et ce devant le vert, 20%, et le rouge, 10%, ce depuis la dernière guerre mondiale à peu près, où elle est perçue comme une couleur très consensuelle, neutre, pacifique, discrète, elle ne choque pas, elle emporte l'adhésion de tous. En fait, c'est la plus raisonnable de toutes les couleurs et c'est pourquoi les organismes internationaux l'ont choisie comme couleur, bien sûr. Elle est perçue par tous comme la couleur du progrès, des rêves, des libertés, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les progrès de la chimie, des pigments et des colorants permettent d'obtenir des tons lumineux et solides. Il y a d'abord le bleu de Prusse qui permet de diversifier des nuances très foncées. De source minérale, il cumule les avantages d'être à la fois stable, profond et peu coûteux. Puis il y a aussi l'outremer qui est fabriqué en 1828 et qui est diffusé en boules de bleu pour raviver le linge blanc, azurage. Hein, ça évoque quelque chose à certains d'entre nous. Et ça reviendra aux artistes au 19e siècle. Alors on connaîtra aussi l'indigomania, c'est-à-dire la vogue du bleu. Ça envahit l'Europe. Et en fait, ça aurait dû se passer bien plus tôt. L'indigo aurait dû remplacer le lapis-lazuli, l'azurite et la guède, parce qu'ils colorent de façon puissante et stable. Mais les producteurs de guède et les commerçants de pastels qui enrichissaient les teinturiers européens se sont défendus comme l'ont fait exactement les marchands de Garance. Hein. On interdit la teinture du diable avec menace de mort si on l'utilisait, s'il vous plaît. Son importation ne va être autorisée en France qu'en 1737 et va devenir le monopole des Anglais. La guêde ne se substitue ponctuellement que pour remédier à l'arrivée défectueuse d'une cargaison d'indigo. Autre phénomène très important aussi, c'est que le noir décline. C'est une couleur qui domine au XIXe siècle, mais elle est coûteuse et complexe. On l'utilise pour les uniformes et les vêtements quotidiens. Eh bien, ils vont passer du noir au bleu sombre. Et vient alors la mode du bleu marine vers la fin du XIXe siècle. Elle est lancée par les teinturiers qui teignent avec le bleu de Prusse et l'indigo. Et c'est le triomphe du blazer.
Et n'est-ce pas à ce moment-là que l'on voit apparaître ce que l'on voit encore aujourd'hui, c'est l'uniforme bleu des jeunes collégiens de pays anglophones qui traduit peut-être effectivement ce goût pour le bleu et puis le goût pour une certaine austérité peut-être héritée aussi du protestantisme.
Oui, exactement. C'est une vision qu'on a souvent, ces petits collégiens en bleu. Et effectivement, c'est en Europe occidentale la couleur la plus portée, hein, devant le blanc, le noir et le beige. Mais ça reste la couleur la plus portée. Alors, il faut ajouter un autre phénomène très intéressant, c'est que l'opposition dont on a parlé avant entre le bleu et le rouge va s'accentuer. Elle domine jusqu'au XVIIIe siècle dans tous les domaines. Par exemple, le rouge est festif, alors que le bleu est moral, et on trouve cette même opposition dans tous les univers, matériels, spirituels, masculins, féminins, une surface proche, une surface lointaine. Et même au XXe siècle, cette opposition rouge-bleu va pénétrer le territoire politique. En 1915, les troupes françaises troquent leur pantalon Garance, qui est trop visible, contre l'uniforme bleu horizon. Et en 1919, la Chambre des députés, qui compte beaucoup de ses anciens soldats, sera qualifiée de chambre bleu horizon. Cette appellation va marquer aussi l'opposition de la majorité de ses députés de droite et du centre à la révolution bolchévique russe, qui avait adopté le rouge pour symbole, hein, avec l'armée rouge et le drapeau rouge. Et puis, dernière raison qui est quand même un petit peu plus souriante, c'est que le romantisme accentue la mode du bleu. Les jeunes Européens, il n'y a pas que les collégiens, ils s'habillent en bleu et la poésie allemande célèbre le culte de cette couleur très mélancolique. On connaît Kandinsky qui fonde en janvier 1909 à Munich le Cavalier Bleu, Der Blaue Reiter. C'est un groupe d'artistes d'inspiration expressionniste qui choisit ce titre parce que juste, ils aimaient tous le bleu. Et puis peut-être, certainement, vous connaissez la chanson de Christophe. Je lui dirai des mots bleus, des mots qu'on dit avec les yeux. Je chante faux, excusez-moi.
On reconnaît très bien.
Merci, c'est très gentil. Il y a les contes bleus qui sont les contes de fées et l'oiseau bleu, l'être idéal.
Alors, en définitive, Béatrice, entre le bleu qui nous enchante et le bleu qui nous fait peur, lequel est le plus important ?
Eh bien, si le bleu est notre couleur préférée, comme on l'a vu, ce n'est pas seulement parce qu'elle nous fait du bien, qu'elle ne fait pas de vagues, c'est peut-être aussi parce qu'on sent qu'elle nous fait grandir. Le bleu clair, selon Kandinsky, attire l'homme vers l'infini et éveille en lui un désir de pureté et une soif de surnaturel.
Merci Béatrice et à bientôt.
À bientôt.